Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Aujourd'hui, dans les clés de l'écho, on est avec Vanessa Michel. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Tu es maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et chercheuse à BSE. Cette semaine, dans ta chronique, tu voulais nous parler de la question du temps long et comment elle est abordée par les économistes.
Oui, en effet, je voulais aborder un point qui est un petit peu technique, mais très important dans l'analyse économique, surtout en lien avec le changement climatique et la transition énergétique, un sujet d'actualité. Cette question, c'est quelle valeur économique nous accordons au temps long, donc au futur lointain. Et ça, c'est particulièrement important sur la question climatique, puisque les phénomènes climatiques sont des phénomènes à temporalité très longue, justement. Donc, lorsqu'on consulte les économistes pour nous demander, bon, combien sommes-nous prêts à dépenser ou à investir aujourd'hui, par exemple, pour préserver l'environnement dans 50 ans, pour les générations futures? Comment on va pouvoir prendre une telle décision sur des arguments économiques? Donc, pour faire cela, il faut être capable de comparer les rendements de nos investissements dans un futur très lointain au coût actuel, au coût présent. Et pour faire cela, parce que pour une décision d'investissement dans le domaine, comme pour toute décision d'investissement, les économistes font classiquement une analyse coût-avantage. C'est-à-dire on compare le coût au rendement, en fait. Et puis si c'est intéressant, on dit oui, le projet est rentable, investissons. Le problème quand on compare des coûts aujourd'hui à des effets dans 50 ans, c'est qu'il faut, on dit en économie, actualiser les revenus futurs pour les ramener à aujourd'hui, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le principe d'actualisation. Et pour cela, il faut, si vous voulez, une espèce de taux de change, un taux de change du futur vers le présent. Si vous voulez, c'est un peu l'inverse du taux d'intérêt. Vous connaissez le taux d'intérêt qui est fixé par les marchés financiers. Le taux d'intérêt, il vous permet de vous projeter dans le futur, de calculer combien vous gagnerez dans le futur si vous placez aujourd'hui 100 euros, par exemple. L'actualisation, c'est l'inverse. C'est ramener au présent des gains futurs. D'accord ? Donc, c'est vraiment un taux de change du futur vers le présent. Et donc, ce taux, on s'en sert pour calculer la rentabilité d'un projet qui a un très long horizon temporel. Et sans rentrer dans le détail, ce taux est très, très important parce que plus le taux est bas, plus on accorde une valeur importante à l'avenir. À l'inverse, si on prend dans notre calcul un taux d'actualisation élevé, on va complètement écraser l'avenir et on va survaloriser le présent au détriment de l'avenir. D'où l'importance pour les questions de changement climatique dans le calcul économique.
Alors, comment il est fixé ce taux et surtout, qui est-ce qui le fixe?
Alors justement, c'est là tout le problème et un petit peu le danger aussi de l'utilisation de ce taux. Parce que contrairement au taux d'intérêt qui est fixé par les marchés financiers, le taux d'actualisation, il est fixé par l'évaluateur ou le décideur public. Donc, il est subjectif. Et si vous voulez, très schématiquement, ce taux, en fait, est fixé en fonction de trois éléments essentiels. Le premier, c'est la préférence pour le présent, le taux de préférence pour le présent, l'impatience, si vous voulez. On a tous une préférence pour le présent, surtout nous, au niveau individuel. On le sait, on a un biais. Vous avez toujours tendance à survaloriser le présent plutôt que le futur. Ça, c'est lié à notre raisonnement humain, à l'échelle de notre vie. C'est très fort, en plus, aujourd'hui, dans cette société qui tend à tellement survaloriser le moment présent. On est quand même dans une société où le présent est omniprésent et donc on a une grosse préférence pour le présent. Et justement, ce qu'on attend du décideur public ou du politique, il est censé avoir une préférence pour le présent moindre, et c'est même tout son rôle aux politiques, de tenir compte du futur et d'être capable de défendre des projets pour des générations futures. Donc cet aspect-là, c'est le premier aspect important qui va déterminer l'actualisation, c'est la préférence pour le présent. Le second effet qui est important, c'est l'effet richesse. Le fait que l'histoire montre que les générations successives voient leur pouvoir d'achat améliorer, leur niveau de vie s'améliore en raison de la croissance économique. Donc, c'est pour cette raison que la valeur de la richesse dans 50 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et c'est ça aussi dont on cherche à prendre compte dans l'actualisation, cet effet richesse. Et enfin, il y a un troisième élément très important pour l'écologie en particulier qu'il faut prendre en compte, c'est l'effet de précaution et la prudence. Donc, ça, c'est lié au fait qu'en économie, il y a un lien direct entre le temps et le risque. Plus on réfléchit à quelque chose qui est loin dans le temps, plus il y a de l'incertitude. Et cette incertitude, il faut en tenir compte dans nos calculs d'investissement et faire preuve de précaution et de prudence. Donc là, la prudence consisterait plutôt à prendre des taux d'actualisation faibles pour bien valoriser les risques dans l'avenir et en prendre compte. Donc c'est un peu ces trois éléments qui, de façon vraiment subjective, sont pris en compte par l'évaluateur, le décideur politique, pour définir son taux et faire son calcul.
Et alors, une fois qu'on sait tout ça, quelle valeur on donne à ce taux d'actualisation ?
Alors justement, c'est très variable. Et ce que je voudrais souligner, c'est que de petites variations de taux ont des effets très importants sur les conclusions des études économiques, sur des décisions d'investissement, comme par exemple la transition énergétique ou le nucléaire. Parce que les taux, selon les études, varient entre 3 et 8%. On peut même aller jusqu'à 10. Alors, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on prenait des taux d'actualisation de 8% jusque dans les années 80, lorsqu'il s'agissait de réfléchir à des investissements dans des grandes infrastructures publiques comme des routes, des infrastructures ferroviaires, etc., qui étaient des projets finalement qui avaient une durée de vie qui n'excédait pas quelques décennies. Et là, avec des taux d'actualisation comme ça, on arrivait à calculer la rentabilité de ce type de projet. Mais quand on a commencé à être confronté à des problématiques, à des temporalités aussi longues comme le climat et l'énergie, là, on s'est rendu compte qu'un taux de 8%, ça revient à ne pas du tout prendre en compte les effets sur un temps au-delà de 30-50 ans et que ces taux n'étaient plus adaptés. D'où les débats sur la valeur de ces taux. Et pour vous donner un autre exemple, lorsque l'on parle du nucléaire, un sujet qui est vraiment de nouveau sur le devant de la scène politique et qui va certainement être un sujet important dans la campagne, lorsque vous écoutez les débats sur ce point, peut-être que vous vous étonnez toujours d'entendre des chiffres aussi différents. Lorsqu'un économiste va parler de la rentabilité des centrales, du coût du kilowattheure, du coût de démantèlement des centrales, du coût des déchets nucléaires, etc., on a des chiffres complètement différents. Eh bien, c'est lié à la méthode d'évaluation, qui est d'abord très compliquée, très difficile, et aussi à ce taux. Parce que, par exemple, le coût du kilowattheure nucléaire double selon qu'on prenne un taux de 3 ou 8%. Ou, pour vous donner un autre exemple, si on prend un taux d'actualisation de plus de 5%, eh bien, les effets des déchets nucléaires, au-delà de 500 ans, sont complètement absents dans l'évaluation. Vous voyez ? Donc, c'est extrêmement important, la valeur de ces taux pour ce type de décision de politique. Et puis, généralement, on ne les donne pas, ces taux, et on ne comprend pas pourquoi il y a de telles différences d'estimation.
Mmh. Au final, quel impact ça a, tout ça, sur les décisions politiques, Vanessa ?
Bien, ça a beaucoup d'impact parce que le politique, généralement, va demander à des économistes de faire des études de rentabilité pour justifier tel ou tel plan ou telle politique. Et l'économiste, dans son calcul, va opter pour une certaine méthode d'évaluation et pour un taux. Et du coup, ça va énormément influencer les décisions. Si on prend un taux, je vais un peu caricaturer, mais c'est quand même l'idée, si on prend un taux assez élevé, c'est-à-dire au-delà de 7%, on va plutôt réussir assez facilement à montrer qu'il faut peut-être investir dans de nouvelles centrales nucléaires. Alors que si on prend un taux très faible, on va plutôt montrer l'inverse, en fait. Ça va être plus favorable à investir dans d'autres types d'énergie. Donc, c'est vraiment un levier important. Et c'est pour cette raison que sur des questions sur une temporalité aussi longue que le climat et l'énergie, on peut se demander, en fait, s'il faut tout simplement actualiser. Et c'est pour ça que certains économistes très favorables à l'écologie préconisent de ne plus actualiser, parce que ne pas avoir de taux d'actualisation du tout, ça revient, c'est vraiment la forme la plus importante d'altruisme intergénérationnel. Si on n'actualise pas, ça veut dire qu'on accorde la même valeur aux générations futures qu'au présent.
Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages, Vanessa Michel. Je rappelle que tu es maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux et chercheuse à BSE. Merci de nous avoir appris tout ça.
Merci, à bientôt. Spectre.